papo à la source.
Ah,
métro,
pique ton cœur, Caroline.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission d'histoire locale ou lointaine, Histo Amétropique, votre traitement contre la mauvaise vue historique. Alors cette fois-ci, pour ce mois de novembre, nous allons partir du Limousin et de la France pour nous diriger dans l'Est de l'Europe et au Levant. Bon, nous avons le lieu, il ne nous manque donc plus que la période. Mais que s'est-il passé historiquement au mois de novembre ? Vous l'avez sans doute deviné, je parle de l'armistice du 11 novembre 1918, mettant un terme à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, à un peu plus de 4 ans d'une boucherie sans nom qui a traumatisé les populations à jamais. En Limousin, ce conflit a eu des répercussions directes en accélérant la baisse de la démographie. La Creuse perd en moyenne 4,7% de sa population, et comment parler de cette période sans évoquer justement le monument aux morts de Jean Sioux, symbole du pacifisme et de l'esprit antimilitariste de l'après-guerre. Plus jamais ça, c'est la der des der. Et pourtant, toujours sur le plateau, un événement brisait déjà le mythe de la guerre qui met fin à toutes les guerres, et annonçait avant l'heure l'ère tragique des conflits post-11 novembre 1918. Je vous parle bien entendu de la mutinerie des soldats russes du camp de la Courtine qui eut lieu durant l'été 1917 et se termina le 19 septembre. Cet événement, qui s'intercale entre la révolution de février mettant fin au tsarisme et la révolution d'octobre instant l'or au pouvoir les bolcheviques, voit lors de sa conclusion un conflit entre forces loyalistes, dites plus tard blanches, et mutins, souhaitant un rapatriement et la fin des hostilités avec en toile de fond un interventionnisme français. Ce schéma se répétera encore et encore. Mais pourquoi un tel interventionnisme ? Eh bien, au sortir de la guerre, la France est sans contestation possible la première puissance militaire mondiale et n'a aucun concurrent au niveau humain et matériel avec, en 1920, après la démobilisation, 872 000 hommes contre 370 000 pour le Royaume-Uni, sans compter l'immense reliquat des armes du conflit. La France est l'un des vainqueurs et impose donc ses conditions à travers les différents traités. Elle doit donc se donner les moyens de ses ambitions et agir en gendarme. Elle se partage donc, avec les autres alliés, différentes zones d'influence et là où un traité a ou est susceptible d'avoir des difficultés à être appliqué, elle intervient. L'autre aspect non négligeable est sa volonté de toujours affaiblir l'Allemagne et d'agir dans ce sens partout où cela peut nuire aux vaincus, comme avec le soutien à la Pologne ou la Tchécoslovaquie. Enfin, la France souhaite limiter le communisme à la Russie et soutiendra donc les armées blanches ou les nouvelles armées nationales luttant contre les différentes armées rouges. Nous allons donc parler de ces conflits qui ont eu lieu à la suite de la signature des différents traités de paix. Des guerres après la guerre. C'est un thème qui intéresse les documentaristes de nos jours. Vous avez déjà dû le remarquer si vous avez la télévision, avec la diffusion sur Arte d'une mini-série documentaire intitulée « Les rêves brisés de l'entre-deux-guerres », ainsi que sur France 2 avec « Apocalypse, la paix impossible après 1918 » qui sera diffusée le 11 novembre. Sans parler de la superbe exposition qui se déroule en ce moment, jusqu'au 20 janvier 2019 au Musée de l'Armée à Paris. À l'Est, la guerre sans fin, 1918-1923. Je me suis d'ailleurs essentiellement basé sur le catalogue de cette exposition pour réaliser cette série de 2 épisodes. Dans ce premier épisode, nous nous concentrerons sur les conflits du nord de l'Europe centrale et de l'Est. Puis, pour le second épisode, nous irons dans l'ancienne Autriche-Hongrie, les Balkans, au Levant, en Turquie et dans le Caucase. Avant de commencer, il faut qu'on s'éclaircisse les idées. C'est quoi un armistice, un traité de paix, une capitulation ? Quelle différence y a-t-il entre les trois ? Eh bien, un traité, c'est un contrat conclu entre plusieurs sujets de droit international, proclamant la fin d'une guerre et contenant souvent des contreparties réciproques pour les anciens belligérants. Un armistice, quant à lui, est juste un accord concernant seulement l'arrêt des combats et il est uniquement politique. C'est-à-dire que théoriquement, les armées sont toujours en état de combattre et laissent les territoires du vaincu sous son administration, même s'ils sont occupés. Enfin, une capitulation est quant à elle militaire, avec des conséquences politiques. L'armée est en incapacité de se battre. L'État est par conséquent sans défense, on peut donc tout lui imposer jusqu'à même sa disparition. Maintenant, tenez-vous bien. Pour parler de l'après-guerre, il faut avant toute chose parler de la fin de cette guerre. Et elle est chaotique. En plus du fameux armistice avec l'Allemagne du 11 novembre 1918, il y en a eu 5 autres. Un pour chaque membre restant de la quadruplice. C'est-à-dire les empires austro-hongrois et ottomans, ainsi que le royaume de Bulgarie. Plus deux armistices côté alliés, qui avaient déposé les armes avant le 11 novembre, c'est-à-dire la Roumanie et la Russie. Les deux sont liés à la révolution russe qui était en cours. Après le retrait des armées du tsar, ces soldats partant tous dans leur région d'origine pour y suivre les cours des événements, la Roumanie, déjà occupée sur les deux tiers de son territoire, ne pouvait pas seule résister aux empires centraux. Elle fut donc contrainte de déposer les armes le 9 décembre 1917, avant même les Russes qui signèrent un armistice quelques jours plus tard, le 15 décembre. Puis, le cours de la guerre changea à la suite de l'échec des offensives estivales de la quadruplice et des contre-offensives victorieuses des alliés d'août-novembre 1918. Ce fut la Bulgarie qui céda la première le 29 septembre à Thessalonique, puis l'Empire ottoman le 30 octobre à Mudros et l'Autriche-Hongrie le 3 novembre à Vilagisti. En plus de la chute de son armée, principal pilier du régime, l'Empire austro-hongrois avait entamé sa dislocation depuis le 28 octobre avec la déclaration d'indépendance des Tchèques. Nous reviendrons plus en détail sur ces événements et ses conséquences dans le second épisode. Il faut savoir aussi que la Roumanie, profitant de la débâcle, décida de rentrer une nouvelle fois en guerre le 10 novembre en dénonçant les conditions du traité de Bucarest qu'elle avait pourtant signé le 7 mai 1918. Cette entrée en guerre, une semaine après l'armistice austro-hongrois et un jour avant la défaite allemande, leur permit de s'asseoir à la table des vainqueurs lors de la conférence de la paix qui accoucha de nombreux traités qui conduiront plus tard à des affrontements. Maintenant, pourquoi les conflits éclatent alors que le grand carnage est normalement arrêté ? Bien, la principale raison, c'est la mise en application du principe pourtant louable du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la volonté d'avoir un État par peuple. On doit au président américain Woodrow Wilson une déclaration capitale dans le futur de l'Europe et du monde. Elle cherchait pourtant une paix durable, mais sera en fait revendiquée pour le déclenchement de nombreux conflits. Ce texte, c'est la fameuse déclaration en 14 points pour la paix. Elle introduit bien de manière claire le droit à l'autonomie pour les peuples d'Autriche-Hongrie dans son 10e point, de l'indépendance des États des Balkans dans son point 11, ensuite au 12e point, je cite, « Aux autres nations qui sont maintenant sous la domination turque, on devrait garantir une sécurité absolue de vie et la pleine possibilité de se développer d'une façon autonome. » Et il n'utilise donc pas le terme d'indépendance. De plus, dans le 5e point, il exclut implicitement ce droit aux territoires coloniaux, en ne préconisant uniquement qu'une prise en compte des intérêts des populations coloniales. Bref, il en dit suffisamment pour faire du grabuge et pas assez pour offrir ce droit à tous. Enfin, pour la petite histoire, sachez que son 14e point préconise la création d'une société des nations œuvrant pour une réalisation pacifique des conflits. Société des nations que les États-Unis refuseront de rejoindre en ne ratifiant pas le traité de Versailles le 19 mars 1920. SDN qui, dans l'article 22 de son pacte de fondation, reprend le principe de mission sacrée de colonisation, mettant à tout jamais à bas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au profit de l'instauration de mandats. Toujours est-il qu'on accorde ce droit aux peuples d'Europe anciennement sous domination des empires centraux. De plus, avec le point 13, on préconise la recréation d'un État polonais disparu depuis 1772 et donc anciennement occupé par trois empires différents, la Russie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Cette Pologne doit avoir un accès à la mer, coupant ainsi l'Allemagne en deux avec le couloir de Danzig. Ça vous dit quelque chose ? C'est par l'attaque de ce couloir par Hitler le 1er septembre 1939 que la Seconde Guerre mondiale débutera officiellement. Pour revenir à 1918, les ressortissants polonais se sont donc battus lors de la guerre dans trois armées différentes. Mais le nationalisme y est fort et ce peuple n'a jamais renoncé à son rêve d'indépendance. Problème, après des années de domination, toutes ces populations sont plus ou moins mélangées. Comment créer des frontières stables et claires ? C'est l'apparition des cartes ethniques. Tout le travail des traités était de tracer des frontières cohérentes ethniquement, mais aussi géographiquement. Vous vous en doutez, c'était une tâche bien trop compliquée et il a donc fallu faire des choix. Certaines frontières étaient cohérentes avec les concentrations des différents peuples, mais sans sens géographique réel, et avaient donc un aspect totalement artificiel. Sans compter le poids de l'histoire, les États revendiquant chacun la domination de certains territoires, car anciennement sous leur domination. Et voilà comment on crée une poudrière. On vient d'écouter un chant cosaque, Mon pays bien-aimé, interprété par le groupe The Vonitsa. Ce fut un chant chanté durant la Première Guerre mondiale, mais aussi lors de la guerre civile russe, qui va nous intéresser sur certains de ses fronts. Il est donc enfin temps de parler de ces conflits et de leurs issues. Commençons donc par les guerres issues de la Révolution russe, conduisant à la défaite de cet immense empire et du traité de Brest-Litovsk du 3 mars 1918. À la suite de ces événements, de nombreux pays déclarèrent leur indépendance. Comme la Finlande, le 6 décembre 1917, l'Ukraine, le 9 janvier 1918, la Lituanie, le 16 février, l'Estonie, le 23 février, la Biélorussie, le 25 mars, naissance d'une république démocratique fédérative de Transcaucasie, composée de l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, le 9 avril, qui finira par s'éclater dès le 26 mai avec l'indépendance de la Géorgie, puis le 28 de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Une nouvelle vague d'indépendance s'ajoute à la première après le 11 novembre et le retrait des Allemands des territoires conquis sur la Russie. C'est le cas de la Lettonie et des autres pays baltes qui, malgré leurs déclarations d'indépendance respectives, étaient occupés et légalement annexés au Reich jusqu'alors. Un pays en devient donc 10, sans compter la renaissance de la Pologne. La Russie devient le 23 janvier 1918 la République socialiste fédérative de Russie. Et a pour projet de propager la révolution communiste à l'international. Et pour Lénine, cela doit passer par la force. Il crée donc l'armée rouge dès le 15 janvier. Son premier objectif est défensif, en protégeant le régime bolchevique des armées contre-révolutionnaires monarchistes. Mais ses objectifs vont beaucoup plus loin. En effet, Lénine ne s'en cache pas, loin de craindre la guerre civile, il la souhaite. C'est un passage obligé pour souder le peuple autour du socialisme et anéantir ses opposants. La Russie s'embrase donc, mais pas uniquement contre les monarchistes, mais aussi contre les socialistes modérés, les anarchistes et les mencheviks. Des marxistes, mais préconisant un parti de masse où l'adhésion était ouverte au plus grand nombre, s'opposant ainsi à l'organisation d'un parti de cadres formé de révolutionnaires professionnels voulus par les bolcheviks. Le régime doit aussi lutter contre l'insurrection des Verts, des paysans occupant les terres fertiles de l'ancien empire. Plusieurs guerres vont donc se succéder jusqu'en 1922. Elles se déroulent partout sur le territoire, comme avec la conquête de Vladivostok le 25 octobre 1922, ou dans le sud à Rostov, dans le nord à Petrograd, anciennement Saint-Pétersbourg et futur Leningrad. Les alliés tentent aussi d'intervenir en soutenant les Blancs, comme les Japonais, Américains, Tchécoslovaques, Français et Britanniques en Sibérie, pour contrôler l'axe vital du Transsibérien. L'armée rouge souhaite aussi étendre la révolution et va donc attaquer de nouveaux pays, anciennement de l'Empire, pour créer des républiques socialistes soviétiques sœurs. Cette entreprise réussira avec succès en Ukraine et Biélorussie. En Ukraine d'abord, puisque la déclaration d'indépendance du 9 janvier 1918 n'était en réalité qu'un coup de poker pour se dégager de l'emprise de la Russie, alors que déjà une partie de ses villes à l'est était bolchévique. Sans compter que les paysans se sont révoltés, empêchant toute mobilisation en hommes et en biens pour créer une armée ukrainienne. L'armée indépendantiste doit donc composer avec les armées russes blanches pour lutter contre l'invasion soviétique, mais aussi une invasion polonaise au nord. Tout ça sans réel soutien populaire. C'est ce manque de soutien qui fera d'ailleurs capoter une intervention française censée sécuriser les ports sur la mer Noire. Ne prenant pas en compte cet état de fait, l'état-major français n'avait pas prévu un corps expéditionnaire suffisamment important. De plus, les marins français lassés, ne se voyant pas démobilisés, alors que la guerre est terminée et ne comprenant pas leur intervention, se révoltent. Une tentative pour livrer un navire rouge est même stoppée. La flotte est contrainte de se replier en avril 1919. Finalement, au pied du mur, l'Ukraine décida de s'allier aux Polonais, mais l'armée rouge les écrasa. La flotte française ne reviendra que pour réaliser du 12 au 16 novembre 1920 l'évacuation des armées blanches à Sébastopol. S'ensuit une année de sécheresse, d'épidémie et de famine conduisant en 1921 à l'acceptation du pouvoir soviétique. La Biélorussie, quant à elle, a déclaré son indépendance le 25 mars 1918 et était soutenue par l'Allemagne. C'était plus un état fantoche régnant sur des frontières floues. De plus, seul l'Ouest est sous contrôle allemand. L'Est, quant à lui, est toujours sous domination russe. La République populaire de Biélorussie s'effondre en décembre 1918 avec le retrait des baïonnettes prussiennes. Il n'en fallut pas plus pour que l'armée rouge n'en prenne le contrôle et que le 1er janvier 1919, la République socialiste soviétique de Biélorussie naisse, puis s'associe avec la Lituanie le 27 février 1919 pour devenir la République socialiste soviétique lituano-biélorusse. Seulement voilà, les noms changent avec le cours des armes. L'ouest de la Biélorussie est occupé par les Polonais à la suite de la guerre russo-polonaise en 1920 et la Lituanie, partiellement occupée par la Pologne, est redevenue pour le reste indépendante. L'est de la Biélorussie redevient la République socialiste soviétique de Biélorussie. Les combats furent aussi violents dans les pays baltes. En Lettonie, les communistes se sont opposés aux propriétaires germano-baltes et litériennes pro-allemandes, qui furent d'ailleurs soutenues par le Reich durant l'occupation. Le 18 novembre, la Lettonie proclame son indépendance, mais le gouvernement, peu soutenu car peu connu, souhaite lutter contre l'influence soviétique et germano-balte. Les communistes attaquèrent donc et envahirent la quasi-totalité du pays, proclamant même la naissance d'une RSS, République Socialiste Soviétique. Mais les Allemands, voulant annexer les pays baltes et en découdre avec les communistes pour protéger la Prusse orientale, stoppèrent leur retraite. L'armée allemande, ayant l'obligation par les alliés de demeurer défensive, n'attaque pas. À la place, le gouvernement de la République de Weimar ferme les yeux sur la constitution de groupes paramilitaires nationalistes appelés Freikorps, les corps francs. Avec une fausse discipline militaire, ils causèrent d'innombrables exactions. Ils soutiennent un coup d'état germano-balte le 16 avril 1919. Dans le même temps, le régime soviétique recule, car impopulaire, et les Allemands reprennent Riga le 22 mai. Mais des unités lettonnes du nord anti-allemandes avec des troupes estoniennes obtiennent une victoire décisive à la bataille de Cesi du 20 au 22 juin. Les alliés imposèrent un armistice et le gouvernement letton put s'établir à Riga. Mais les corps francs, avec le soutien de Russes blancs, décidèrent d'attaquer de nouveau. Il fallut l'intervention massive des flottes françaises et britanniques et un sursaut national pour mettre un terme à l'aventure allemande. Puis la Lettonie s'associa à la Pologne afin de repousser définitivement les Soviétiques en 1920. Ils purent enfin conclure la paix le 11 août. La Lettonie est enfin reconnue par les Alliés le 26 janvier 1921. La Lettonie, elle, dut se défendre face aux Russes jusqu'à un accord de paix le 12 juillet 1920. Mais ils durent subir une offensive polonaise. En effet, les Polonais, à la suite de leur victoire sur les Russes à Varsovie, voulaient se tailler la part du lion sur la Lituanie. Suite à cette attaque, la Pologne émit des prétentions sur Vilnius et finit par l'occuper à la suite d'une insurrection qu'ils ont provoquée le 9 octobre. La SDN essuya son premier échec en voyant en 1921 tous ses plans de paix rejetés. Finalement, la Pologne annexe officiellement ce territoire en 1922 et en 1923, les Alliés légitiment l'état de fait en reconnaissant les frontières polonaises. Enfin, l'Estonie, contrairement aux deux autres pays baltes, n'est occupée qu'à partir de février 1918 par l'Allemagne et avait déjà proclamé son indépendance le 24 février 1918, avant l'invasion. De plus, elle jouissait d'un statut d'autonomie grâce au gouvernement provisoire russe de février 1917 et possédait donc déjà des institutions élues. Les réformes agraires ont liquidé les influences des grands propriétaires germano-baltes. Donc, il existait un sentiment national fort contre les bolcheviques et les influences allemandes. Elle subit cependant une violente offensive soviétique et est presque toute occupée. Mais le soutien de la Finlande et de la marine britannique dès décembre renverse la situation et dès février 1919, l'ensemble du territoire est libéré. Le traité de Tartu avec les Russes du 2 février 1920 mit fin à la guerre et elle fut ensuite reconnue par les Alliés le 26 janvier 1921. La Finlande, quant à elle, après son indépendance du 6 décembre 1917, subit elle aussi une guerre civile entre rouges et blancs de janvier à mai 1918. Mais se déroulant encore dans le conflit mondial, elle reçoit une aide de l'armée régulière allemande. Les Finlandais tentèrent par la suite d'envahir des portions du territoire soviétique pour réaliser des annexions de fait, mais la résistance soviétique l'en empêcha. Maintenant passons à l'Allemagne. On a donc vu que des milices paramilitaires ont tenté de contester par les armes le traité de Versailles en annexant une partie des pays baltes. Rudolf Höss, futur dirigeant du camp d'extermination d'Auschwitz, participa à la campagne balte et déclara lui-même que les combats étaient extrêmement violents. Il y eut aussi des combats avec la Pologne. En effet, le traité balafrait l'Allemagne en la coupant en deux pour offrir à la Pologne un accès à la mer et un port digne de ce nom. L'Allemagne perdit un dixième de sa population et un septième de son territoire. Le déplacement des populations fut énorme, 200 000 à 300 000 personnes rien qu'avec les départs d'Alsace-Lorraine. De plus, des régions riches en matières premières et en industrie lui sont retirées. C'est le cas d'une partie de la Haute-Silésie qui, après un plébiscite, est partagée en deux avec un tiers du territoire pour la Pologne, comprenant des villes importantes ayant pourtant voté leur maintien dans l'Allemagne. Cela provoqua de violents affrontements entre corps francs et polonais. Enfin, le pays fut secoué par plusieurs tentatives de révolution, toutes écrasées dans le sang par les troupes anti-révolutionnaires. Pour la plupart, il s'agissait de troupes non démobilisées avec la bénédiction des puissances alliées, mais aussi des groupes paramilitaires d'extrême droite comme les Freikorps, futurs soutiens du parti nazi. C'est ces hommes qui assassinèrent en 1919 Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les deux meneurs du mouvement révolutionnaire marxiste-spartakiste. Enfin, parlons des conflits liés à la naissance de la Pologne. Cette dernière fut soutenue militairement par la France afin d'en faire une puissance régionale et un allié fidèle, encerclant ainsi l'Allemagne et réduisant la force de cette dernière. Dès sa déclaration d'indépendance le 11 novembre 1918, elle entre en état de guerre et le restera jusqu'en 1921. Comme dit précédemment, elle combattit les Soviétiques pour sa survie, mais aussi les nationalistes ukrainiens, la Lituanie et l'Allemagne pour son expansion. Après la victoire des Polonais sur les Soviétiques, lors de la bataille de Varsovie, d'août-novembre 1920, appelée par la suite « Miracle de la Vistule », la paix est enfin signée à Riga, le 18 mars 1921. Ces conflits sont le théâtre de violences interethniques et malgré la promesse aux Alliés de ne pas opprimer les minorités et de leur fournir les mêmes droits, la réalité est parfois tout autre. Et on pratique activement le déplacement de population. Il y a aussi d'importants pogroms et les Juifs se voient de nouveau persécutés et immigrent donc vers l'Ouest plus calme. Cette vague de déplacement va réveiller un sentiment antisémite qui va s'épanouir dans les malheurs laissés par la guerre. Terreau d'un futur cataclysme encore plus grand. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Merci d'écouter Radio Vassivière. On se retrouve dans 2 semaines pour le second épisode qui sera centré sur l'éclatement des empires austro-hongrois, ottomans et russes dans le Caucase. Mais aussi finir là où tout a commencé, dans la poudrière des Balkans. À la prochaine sur le 88.6 92.3.
Ah! Métro, pique tout cœur, Caroline.